Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast Hockey sur demande, édition du 11 octobre 2023. Encore une fois, toujours accompagné de mon bon ami Stéphane Grenier. Salut Stéphane!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, c'est notre dernier podcast de prédiction. Et ensuite, on va revenir avec la formule habituelle. Puis là, si j'ai une voix un peu bizarre, ben j'ai un rhume. Donc, c'est pour ça que je sonne un peu comme si j'avais fumé 3-4 clopes avant de commencer. Mais c'est pas le cas, j'ai simplement un petit rhume. Bon, Stéphane, il nous reste la division Pacifique à analyser. Donc, on va y aller avec nos classements et tout ça. Ensuite, on va parler de quelques sujets parce qu'évidemment, la saison a commencé depuis hier. Donc, il y a déjà quelques petits trucs qu'on peut parler là, ici et là. Donc, on va s'attarder à quelques sujets là, pour clore tout ça. Mais avant d'aller là, allons-y avec notre fameux classement de la division Pacifique. Salutations à Samantha qui est déjà dans le chat. D'ailleurs, comme d'habitude, faites vos classements aussi dans le chat. On va vous lire là, tout au long du podcast. Et si vous avez des questions également, eh bien, ne vous gênez pas. Stéphane, numéro 8, est-ce qu'on a un débat ou si on a pas mal les deux, les Sharks de San Jose?
Moi, j'ai mis Edmonton. Non, c'est pas vrai. On pense ça grave.
J'ai presque cru.
J'ai presque cru. Non, je pense que les Sharks, ce ne sera pas un débat. Malheureusement, mais en même temps, je pense que la reconstruction est bien à bien partie du côté de l'organisation des Sharks de San Jose. C'est correct. Je pense qu'on était rendu là. On a réussi à liquider le contrat de Carlson cet été. Et là, on repart. Évidemment, ça ne plaira pas sûrement à des gens tels que Logan Couture qui sont là depuis longtemps et tout. Mais je pense que c'est un mal nécessaire du côté des Sharks. Et ça va faire du bien, je pense, du côté des Sharks de revoir la structure de cette équipe-là à moyen terme.
Ce qui est très intéressant avec les Sharks, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à leur dernière année de contrat. Donc, la prochaine date limite des transactions là, pourrait être très cruciale pour terminer un peu ce rebuild-là. Parce qu'on a Kevin Labanc qui est sans contrat à la fin de la saison, Mike Hoffman qui est sans contrat, Anthony Duclair qui est sans contrat aussi, Alexander Barabanov qui est sans contrat également. Ça, c'est seulement à l'attaque. En défensive, il n'y a personne. Et devant le filet, il y a Kaapo Kakkonen là, qui est à sa dernière année de contrat. Mais tu sais, on rit bien de Mike Hoffman, mais c'est dans un rôle offensif avec une équipe qui n'a pas de pression, il est capable d'en mettre 20 dedans. Une équipe qui va vouloir faire son acquisition à la date limite de transaction. Les Blues l'avaient fait il y a quelques années aussi. Il a fait son acquisition là, au trade deadline, promener de la profondeur à l'attaque. Barabanov, même chose, c'est un joueur qui peut être offensif aussi. Kevin Lamarck également. Donc, on peut, sans dire qu'on va aller chercher des espoirs de premier plan ou des choix de première ronde, si on peut aller chercher quelques espoirs moyens, des choix de deuxième, troisième ronde, tu sais, les Sharks, quand on regarde là, présentement leur situation, ils ont déjà deux choix de première ronde. Ben, un conditionnel des Pingouins et le leur cette année. Deuxième ronde, même chose. Un conditionnel des Devils également, leur choix de deuxième ronde cette année. Ensuite, ils ont un choix de 4, un choix de 5, un choix de 6 et deux choix de 7. Mais on peut vraiment regarder cette banque d'espoir-là et de choix au repêchage avec les noms que je viens de mentionner. Donc, effectivement, du côté des Sharks, on s'attend à une année de misère, mais formatrice, si on veut, là, pour la suite des choses, si on veut aller au niveau du rebuild.
Je suis d'accord. Puis en perdant Carlson, il ne faut pas oublier que nous aussi, Logan Couture est en IR présentement, donc on ne sait pas quand il va revenir. Même chose pour Simek puis McDonald, mais je pense qu'on a besoin quand même d'un peu plus de punch offensif. Et tu as raison pour Hoffman, hein. Je pense que sur un avantage numérique, il devrait quand même faire bien. On sait que les Sharks, ce n'est pas le dernier avantage numérique depuis des années. Donc, c'est pas comme les Canadiens de Montréal, donc ils sont quand même bons à l'avantage numérique. Mais écoute, la profondeur est mince de ce côté-là. Et puis, je pense que c'est un bon rebuild. Puis même défensivement, je pense qu'on a hâte au contrat de Vlasic que ça termine du côté des Sharks, même si on l'aime bien Marc-Edouard. Mais je pense que ce contrat-là est très lourd. Et on a encore 2 à 3 ans pour chacun des gros défenseurs. Là, on parle de Ruta, Ferraro, Benning. Ils sont encore là pour au moins 2 ans. Donc, ça aussi, la brigade défensive va être à travailler de ce côté-là.
Donc, on ne s'ostinera pas du côté de la 8e position. Salutations aussi à Michael Levasseur qui est dans le chat aussi. Savanti qui mentionne que ça passe ou ça casse pour s'annoncer. Mais en fait, je ne pense pas que ça passe ou ça casse dans le sens qu'on sait qu'ils vont finir dans le bas du classement. Voilà. Ça prend vraiment un choix top 3 dans leur cas. Il ne faut pas oublier que des gars également comme William Eklund qui vont progresser. On a Will Smith aussi qu'on a repêché l'an dernier. Et non, ce n'est pas l'acteur, mais bel et bien le joueur. Mais tu sais, il y a des jeunes joueurs qui s'en viennent aussi. Donc, il faut juste recontinuer dans ce... pas dans ce pattern-là, mais dans cette direction-là. Puis du côté des Sharks, je pense pas qu'on peut rêver vraiment aux séries avant encore 2-3 ans. Donc, du côté de s'annoncer peut-être même plus aussi. Là, parce qu'on est vraiment... je ne serais pas dans le début du rebuild, là, mais disons que...
Moi, je pense qu'on est dans le début parce qu'on va commencer à avoir des choix repêchage qui ont du sens pour les 2-3 prochaines années. Donc, on est vraiment loin de... Moi, je pense qu'on a pour une bonne, un bon 8 à 10 ans du côté des Sharks avant de faire de quoi.
8 à 10 ans, c'est long, ça.
Ouais, écoute, faut pas oublier que les joueurs vieillissent. Il ne faut pas oublier ça non plus. Là. Donc, est-ce que vraiment que Logan Couture va attendre? Il y a quel âge Logan Couture? 34 ans. Donc, on ne l'aura pas pour les 6 prochaines années, ça, c'est sûr et certain. Du côté des gardiens de but, on n'est pas si pire, mais même chose pour les attaquants. Là. Granlund, 31. Hoffman, 33. Hurtle va avoir 29. Est-ce qu'Hurtle va être prêt à faire... Est-ce qu'on va être prêt à ce côté des Sharks dans 5 ans? Il va quand même avoir 34 ans. Donc, ça prend de la jeunesse de ce côté, mais ça prend de la bonne jeunesse. Puis, tu l'as dit tantôt, je pense que Thomas Bordeleau et Eklund, c'est les deux joueurs, je pense, qu'on veut le plus. Est-ce que Zadina va enfin faire de quoi là? Ce qui n'a pas marché avec les Red Wings. Donc, ça ne sera pas de la tarte. Ce n'est pas Nico Sturm à 28 ans qui va faire de quoi là-bas. Là.
Donc, numéro 7 maintenant. Moi, pour ma part, je suis demeuré en Californie. J'ai mis les Ducks d'Anaheim.
Moi aussi.
Je ne sais pas quoi penser des Ducks. Il me semble que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont en rebuild, retool, peu importe. Mais pourtant, on dirait qu'il n'y a pas tant de jeunes qui arrivent. Pas tant que ça. T'sais, on a Wheezy Gris qui sont là. Il y a Mason McTavish qui est là. Mais après ça, tu regardes le portrait à l'attaque là, du côté des Ducks, c'est encore des Ryan Strome qui sont dans le top 6. C'est encore des gars comme Adam Henrique, Frank Vetrano. Je ne trippe pas vraiment sur l'attaque du côté des Ducks. Là, évidemment, encore une fois, on suit sur le line-up là, sur Daily Faceoff. Il y a Jacob Silverberg là, qui n'est pas mauvais. Puis défensivement, il y a Drysdale qui vient d'arriver, mais il y a Pavel Mintyukov qui va peut-être commencer également l'année là. On a ajouté Radko Gudas. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que les Ducks, ça tourne un peu en rond. Ça fait quand même quelques années là, qu'on tente là, de rebâtir, mais je trouve pas que ça avance tant que ça. C'est un peu comme les projets ici au Québec qui est le troisième lien, genre. Tu vois le genre? Hein? On dirait qu'on tourne en rond.
Hey, ça là, c'est ta meilleure, honnêtement. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu compter une solide joke dans le même. Écoute, moi, c'est mi-fig, mi-raisin pour les Ducks. First, je les aime pas. Désolé à William Julien, qui est son équipe préférée. C'est une équipe que je trouve qui n'a aucun intérêt depuis les 7-8 dernières années. On a beaucoup de jeunes explosifs, beaucoup de jeunes qui sont très, très... qui ont des skills, mais on n'a rien de plus. Troy Terry, ça a été un feu de paille, on ne le sait pas. Il y a eu les blessures l'année passée, on va voir ce que ça va donner cette année. Mais moi, je trouve que cette équipe-là manque de leadership. On n'a pas de capitaine. On a seulement un assistant capitaine à date. On n'a pas nommé en plus personne d'autre. Moi, je pense qu'on a beaucoup trop de jeunes pour qu'est-ce qu'on devrait avoir comme talent. Zegers, c'est 5,7 millions par année. Ce que ça va faire, j'ai aucune idée. Je suis content de voir Benoît-Olivier Groulx, par exemple, qui a fait le roster. Donc, lui, va commencer au centre de la troisième ligne cette année ou de la quatrième ligne. Ça, je suis content de voir ça. Mais dans ma tête à moi, quand un Adam Henry qui est dans ton premier trio ou ton deuxième trio, c'est pas une grosse équipe. Défensivement, comme tu dis, Radko Gudas au moins n'aura pas Ryan Reeves pour se faire crier après devant le goaler cette année. mais je trouve qu'on attend trop longtemps. Il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes. Est-ce que Drysdale va vraiment bien faire cette année? On ne le sait pas. Tristan Lino qui a fait l'équipe aussi de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle pour les Québécois. C'est un gars qui a taillé son poste. Mais je trouve que Ryan Strome n'a jamais vraiment performé ailleurs. Contrat encore 4 ans, encore avec 5 millions. Russ Johnson qui était pris sur les waivers, Brett Leeson sur les waivers. Je trouve qu'on n'a pas. Moi, j'ai mis figue, mis raisin. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve du côté des Ducks. On a quand même un gros repêchage en 2024 avec 2 choix en deuxième, 3 choix en troisième et une pour le reste. Bon, il va falloir faire de quoi du côté de Pat Verbeek. Là, je pense qu'on a besoin d'un. Pas juste d'un hard reset, mais de savoir où on s'en va de ce côté-là. Là.
Pour vrai, je regarde l'attaque des Sharks, puis je la compare avec elle des Ducks, puis j'aime mieux elle des Sharks.
Moi aussi.
Mais la seule raison pour laquelle j'ai mis les Ducks en avant, c'est que John Gibson est capable de voler des matchs une fois de temps en temps, alors que du côté des Sharks, on n'a pas vraiment de gardien là, numéro un qui va, je dirais pas dominer, mais qui va aller chercher des matchs. Mais tu sais, tant que tu as John Gibson devant le filet, ben, c'est possible, mais c'est sûr qu'il va aller voler quelques matchs. Au courant de la saison. Mickaël qui mentionne dans le chat que Matthews a inscrit son 300e en carrière. Ouais, c'est 2-2. Le Canadien qui vient bien démarrer ça, mais disons que c'est en train de les rattraper et c'est pas étonnant non plus. Je veux dire. Les Leafs ne sont pas tentés d'échapper ce match-là. On va revenir sur les quelques nouvelles justement canadiennes et tout ça, mais on va finir le classement avant. On va aller maintenant au numéro 6. Est-ce que c'est là qu'il y a peut-être du changement? Je vais te laisser aller en premier pour le numéro 6.
Moi, je vais avec Vancouver.
pas de débat.
Finalement, on est vraiment en poche, nos prédictions cette année. Non, là, faire sa poche. Puis je prends les Canucks, puis j'aime pas les mettre là. Je pense qu'avec une masse salariale de 85 millions, c'est qu'il devrait être meilleur que ce qu'elle est sur papier. Je pense que Rick Tocchet va faire du bien au niveau head coach. Je pense que Patrick Harlvin va bien faire au niveau des GM aussi. Mais je pense que c'est pas tout seul du côté de Vancouver. On a beaucoup trop de contrats qui sont lourds. Et il va falloir signer Elias Pettersson cette année, qui est en arrière de son contrat. Il va falloir signer Beauvillier, il va falloir signer Bluebird, il va falloir signer Lafferty, il va falloir signer Joshua. Ça, c'est juste qu'on a une attaque à faire. Donc, on a seulement JT Miller qui est là à long terme avec son 8 millions. Évidemment, Quinn Hughes aussi qui est là, mais je parle du côté des défenseurs. Je pense que ça va être un rebuild cet été. J'ai l'impression que les Canucks vont être très actifs au courant de la saison. Pas si on a la chance de faire les séries, mais je pense qu'on va être très actifs pour chercher des contrats qui ont du sens ou des joueurs qu'on va avoir besoin au niveau surtout du leadership. Faut pas oublier qu'on n'a plus de leadership dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de monde qui sont partis. Puis moi, je pense qu'on met trop de pression sur Thatcher Demko. Je pense qu'on a besoin de Thatcher Demko qui est A1. Malheureusement, il n'est jamais A1 ou il est toujours blessé. La seule chose qu'on a cherché de plus cette année, c'est Casey DeSmith. Le Canadien a pris pendant une vingtaine de jours pour rien. Mais honnêtement, je suis
méfiant. Pour rien, ça a donné Tanner Pearson.
Ça a donné Tanner Pearson, je suis d'accord. Fait que tu sais, dans ma tête à moi, quand ta défensive comporte Myers, Hironek, Soucy, Pico, c'est pas profond, mais bien, malgré qu'il y a des joueurs là-dedans qui sont intéressants. Est-ce qu'Hironek va vraiment bien faire comme il faisait avec les Red Wings? Ça me fait de la peine qu'il est parti de mes Red Wings, mais il va falloir qu'il explose là-bas. Dernière année de contrat à 4,4 millions. Donc, je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche du côté de Vancouver. Il va y avoir des distractions aussi au niveau des joueurs qui veulent rester ou pas rester. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va aller, mais il va falloir vraiment que les Garland, non seulement les Kuzmenko, les Besser, Brock Besser devraient en donner plus cette année, c'est sûr et certain.
Ben écoute, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter du côté des Canucks. Là, je pense que c'est une équipe qui... Une autre équipe que je trouve qui vire en rond avec comme les Ducks. Là, on dirait que depuis quelques années, ça, on n'est pas en rebuild par contre du côté des Canucks. On essaie tout le temps d'essayer de faire les séries, mais on dirait qu'à chaque année, il arrive tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps des distractions. Quand c'est pas JT Miller qui crie après son gardien, c'est Elias Pettersson qui va dire durant la saison morte qu'il n'est pas sûr de revenir. Donc, tu sais, il y a tout le temps de quoi qui ne fonctionne pas du côté des Canucks. Puis, je pense que cette année, ça va être encore le cas, malheureusement. C'est dommage parce qu'on a quand même des bons morceaux intéressants là, comme Pettersson et Quinn Hughes, comme tu as mentionné. Mais ces gars-là sont pas super bien entourés, je trouve. Et ouais, ils vont faire à peine mieux que les Ducks et les Sharks, mais je les vois pas plus haut que ça dans le classement de la Pacifique.
Ouais, puis ça pourrait être facilement dans le top 5, trois équipes-là, dans le top 5 des pires équipes cette année. Moi, je pense que ces trois équipes-là pourraient se retrouver là. Puis je regarde ces trois équipes-là, puis le point en commun, c'est le leadership. Les trois n'ont pas. Puis je pense que ça prend du leadership quand même dans ta chambre, mais ça te prend des joueurs qui veulent le faire. Et on va le voir que le reste des équipes de cette division-là, puis même les divisions des autres divisions qu'on a faites, quand tu n'as pas de leader, que ce soit au moins un leader, tu sais, oui, Quinn Hughes est bon, j'ai pas de problème avec ça, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est verbalisateur dans la chambre? Je pense pas que c'est un Besser ou un Miller qui doit le faire. Je pense qu'Elias Pettersson doit en donner plus. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au bout de l'année. Mais comme je te dis, je pense qu'on veut faire les séries à chaque année. Je pense que c'est ça le but des Canucks. Mais ça va être encore difficile dans cette division-là. Je peux le dire, là, les cinq équipes en haut sont assez fortes.
Donc, on passe maintenant à la cinquième équipe dans la division Pacifique. Je vais te laisser y aller également pour celle-là.
Moi, je joue avec les Flames.
Bon, on a un semi-débat. OK.
Moi, je joue avec les Flames. Juste à cause de Jonathan Huberdeau, dans le fond. Non, c'est pas vrai. Il crache de ça encore. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'on n'a pas de mauvaise équipe du côté des Flames. Seattle me surprend l'année passée, donc je ne peux pas passer à côté d'une position en haut d'eux autres. Los Angeles, je pense, sont très bien balancés, même si je déteste ce jeu défensif. Je pense que Los Angeles est quand même meilleur.
Puis d'autres, en plus, c'est Pierre-Luc Dubois, fait que c'est sûr.
Exactement. Donc, honnêtement, Calgary, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise équipe. On était peut-être un petit peu moins fort défensivement. Je pense que Rasmus Anderson, c'est un très bon contrat à 4,5 millions. Zadorov aussi va faire probablement la troisième paire. Est-ce qu'offensivement, on va pouvoir être à la fin de l'année passée? Moi, je pense que c'est beaucoup de pression sur Huberdeau et Nazem Kadri. Par contre, s'il y en a un qui peut le prendre, c'est Huberdeau. Et là, j'espère, on entend les médias depuis une couple de semaines, une couple de jours, puis même aujourd'hui, on racontait que j'avais plus le goût de jouer au hockey quand je suis parti des Panthers, puis l'année passée, j'avais plus le goût de jouer au hockey, puis hey, big, tu comptes 10,5, ferme ta boîte, puis joue. Là. Donc, j'espère que cette année, il va régler un petit peu ce côté-là de lui-même. Et il va falloir qu'on enclenche du côté des Flames parce que là, dans cette division-là, on a une grosse équipe en haut au Québec, au Canada, qui va vouloir tout défoncer, puis c'est Edmonton. Donc, j'ai hâte de voir. On n'aura plus l'excuse à l'entraîneur, évidemment, parce que c'est rendu Ryan Huska. Craig Conroy qui est arrivé là aussi comme DG pour faire le ménage et voir ce qu'on a. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de choix repêchage non plus dans les prochaines années du côté de Calgary. Donc, c'est probablement qu'on va être all-in avec une masse salariale de 2,4 millions qui reste. C'est pas beaucoup. Puis on a seulement 22 joueurs sur notre roster. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas 23 joueurs. Donc, il nous manque quand même un joueur de ce côté-là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner au bout de la ligne. Mais moi, je pense que ça va être trop peu trop tard pour les Flames à la fin de saison.
Moi, cinquième position, j'ai mis le Kraken de Seattle. Moi, je pense que le Kraken, ils n'ont absolument rien foutu durant l'été. Ils ont laissé partir un de leurs meilleurs buteurs en Daniel Sprong pour aucune raison. Ça, je ne l'ai pas compris non plus. On pensait que c'était pour faire de la place à Shane Wright. Hein, non, on renvoie Shane Wright dans la Ligue américaine aussi. Puis tu sais, c'est pas un désaveu envers le Kraken, c'est qu'ils ont une bonne équipe, mais moi, je vais te spoiler, mais j'ai mis les Flames juste au-dessus, puis je vais t'expliquer pourquoi quand je vais être rendu aux Flames, mais du côté du Kraken, c'est ça, on va présenter le même alignement qui va être hargneux, qui va être dur à jouer contre, mais j'aurais juste aimé ça, voir cette équipe-là s'améliorant du côté de la saison morte, puis il n'y a pas de jeunes non plus qui s'en viennent, là. Le seul jeune qui aurait pu faire sa place, comme j'ai mentionné, c'est Shane Wright, puis il ne l'a pas fait. Donc, c'est pas mal ça pour le Kraken. Ça va être une bonne formation, encore une fois, là, qui va être le fun à voir aller, mais je vais passer maintenant à ma quatrième position pour compléter mon argument. Moi, ce que j'aime beaucoup du côté des Flames, c'est l'arrivée du 109 enfin à l'attaque. C'est Matt Coronado, c'est un de leurs choix de première ronde, qui a été excellent dans la NCAA. Devrait amener un petit vent de fraîcheur. Même chose pour Yegor Sharagovic, lui qu'on a obtenu, si je ne me trompe pas, c'est dans une transaction quelconque. Je ne me souviens plus c'est quel trade qu'ils l'ont eu, mais c'est un ancien joueur des Devils de New Jersey. Donc, maintenant, là, il est rendu avec les Flames. Et sinon, ben, Huberdeau, juste le fait que justement, si du côté de Huberdeau, maintenant que le coach n'est pas là, 3-2. 3-2 pour.
C'est pas toi.
Bon, sûrement Toronto.
Qui score toujours contre le Canadien?
Austin Matthews.
Puis
William Nylander.
Et voilà. 1-2.
Ben oui, oui. Mais ouais, c'est ça. T'sais, c'est du côté des Flames. Juste le départ de Daryl Sutter, je pense que ça va changer la donne dans le sens qu'il y a plusieurs joueurs qui ont sous-performé l'année passée. On a parlé d'Huberdeau, mais Mackenzie Weegar n'a pas eu une grosse première saison non plus avec les Flames l'an dernier. Je déteste pas la défensive avec les Hanifin, Anderson, Zadorov et Weegar comme top 4. Markstrom, c'est sûr que c'est là que j'ai des doutes un petit peu. Mais je me dis qu'on a toujours la carte cachée de Dustin Wolf qu'on va sûrement éventuellement monter. Je ne sais pas si on veut essayer d'échanger Daniel Vladar en attendant. Mais lorsque Wolf va monter dans cette équipe-là, je pense qu'il va réussir à aller ramasser le poste de numéro 1.
Ouais.
Prendre la décision avec Mark Strom. Mais c'est sûr que je les ai mis quatrième, mais c'est avec un astérix. Parce qu'évidemment, on ne sait pas ce que Coronado va donner concrètement, ni Sharangovic. Mais j'aime ces ajouts-là en termes de profondeur offensive qu'on n'avait pas nécessairement l'an dernier. Tu sais, qu'on avait des gars comme. Là, je remonte un petit peu plus loin, mais tu sais, des gars comme Lucic dans le passé qui faisaient rien ou des joueurs qui servaient un petit peu à rien. Là, on a plus des joueurs jeunes et qui sont capables de jouer offensif. Donc, moi, c'est surtout aussi, comme j'ai indiqué, le plus gros de l'argumentaire, c'est que Daryl Sutter n'est plus là. Fait que là, les gars, ils n'ont plus d'excuses. Là, si on se performe encore une fois du côté des Flames, ben, le problème n'aura pas été le coach tant que ça, finalement.
Oh shit. Bonne nuit. Donc, moi, je pense que. C'est pas à vous autres, bonne nuit, c'est à mon garçon. Hein. moi, de mon côté, la seule raison pourquoi j'ai pas mis Seattle en 5 comme toi versus les Flames, c'est justement à cause de l'expérience. Donc, je pense que l'année passée, on a acquis de l'expérience, même si on a perdu notre meilleur scoreur. Je pense que c'est une équipe qui est bonne en comité. On en a parlé dans les sirènes et pas la semaine l'année passée. Puis moi, je pense que le comité va faire la différence du côté du Kraken. Ce que j'aime de cette équipe-là, c'est le balancement. Grubauer n'a pas besoin non plus d'être le super-héros parce que défensivement, ils sont quand même solides. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et moi, je pense que le edge est vraiment mince entre les deux. T'sais. Quand tu regardes ça...
Il n'y a pas une grosse différence entre les deux.
C'est pas grand-chose, mais je pense que le leadership du côté des Kraken, l'expérience d'année passée, le désir de gagner aussi. T'sais, on l'a vu avec les Golden Knights un petit peu dans les 6 dernières saisons. On a vraiment touché rapidement à la finale de la Coupe Stanley. Donc, on voulait gagner rapidement du côté des Golden Knights, mais je pense qu'on va avoir la même chose du côté du Kraken cette année.
Ce qui nous laisse donc... Ben toi, quatrième position, t'as mis quoi, le Kraken, j'imagine?
Ouais.
OK, fait que ça nous laisse le même top 3. Donc, on a Edmonton, Vegas et Los Angeles dans l'ordre ou dans le désordre. Et juste avant de poursuivre, ça m'a dit qu'il a mentionné, c'est dans le trade de Toffoli qu'ils ont eu.
Ouais.
Je me souvenais plus, c'était... Je sais qu'il y avait eu un trade entre les deux équipes, mais je me souvenais plus c'était qui, mais merci, Savanti, d'avoir corrigé le tir. Numéro 3, je vais laisser aller en premier.
Numéro 3, moi, j'ai mis les Kings.
Ouh! On ne s'assinera pas là-dessus non plus.
J'ai mis les Kings. Pourquoi? Parce que je pense que les autres équipes sont supérieures, évidemment, Vegas et Edmonton. Mais je pense que c'est une nouvelle ère du côté des Kings. Je pense qu'on va être un petit peu meilleur offensivement. On a quand même nos bons joueurs de centre en Enzi Kopitar, Philippe Dano, qui va probablement être encore le deuxième centre. Mais là, on rajoute un Pierre-Luc Dubois qui peut jouer à l'aile ou au centre. On a un Blake Lizotte aussi qu'on oublie au centre souvent, qui fait bien. Donc, honnêtement, je pense que cette équipe-là... Puis on le disait à Montréal dans le temps, Philippe Dano sur une troisième paire ou une deuxième paire, ça dit que c'est une bonne équipe. Et là, je pense qu'on va le voir avec les Kings cette année, avec un Pierre-Luc Dubois qui devrait tout défoncer. En fait, lui, il n'y aura pas de raison de ne pas le faire. Donc, crosser le Canadien pour aller avec les Kings après, donc c'est parfait. Donc, pour avoir un meilleur salaire, donc un autre de plus. Mais ce qui va arriver avec ça, c'est de voir comment que on va arriver offensivement. Et un Pierre-Luc Dubois dans une équipe, t'apportes minimum 80 points par année si tout va bien, s'il peut jouer 82 matchs. Donc, c'est sûr que ça va aider du côté des Kings, qu'on trouvait peut-être trop défensif. Mais là, je pense qu'on commence à se recycler du côté des Kings. On a Quentin Byfield qui va avoir une troisième saison. Kaliev aussi à 22 ans. On a Alex Laferrière aussi qui est là à 21 ans. Donc, c'est le fun de voir la différence entre les jeunes et les plus vieux. Là, les Constructeurs à 36, les Drew Doughty à 33 qui vieillissent. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est un Michael Anderson aussi à 4,1 millions. Ça pourrait être une long shot pour cette équipe-là. Donc, un défenseur qui pourrait être bon à long terme. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Kings. Mais on va probablement talonner dans le haut du classement pour un petit bout avant de se faire éclipser par les deux autres.
Ouais, moi, du côté des Kings, j'ai placé troisième. Évidemment, la profondeur à l'attaque, là, avec surtout les ajouts du bois. Mais Byfield, là, qui semble voir prendre plus de galons un peu. Bon, avec les Fiala, Kempe, Kopitar. Dano, name it, mais moi c'est pour la raison pour laquelle je ne sais pas placer plus haut, c'est devant le filet. Je ne sais pas si Cam Talbot va vraiment faire le travail, et s'il ne le fait pas, ben, le deuxième c'est Phoenix Copley. Donc ça, je suis moins safe un petit peu, quoi qu'en même temps on pourrait dire que Edmonton, les goalers, s'il y a même quoi qui est incertain, c'est bien ça, mais on s'entend qu'ils n'ont pas la même force de frappe du tout à l'offensive, et c'est ce qui fait une grosse différence. Mais bref, je pense qu'Hurley, encore une fois, peuvent très bien rêver un poste top 3 là, dans la division Pacifique. Surtout qu'il y a plusieurs équipes là, qui ne devraient pas connaître des grosses saisons là, comme Vancouver, Anaheim, San Jose. Seattle, ben moi je place LA pas mal en avant de Seattle là, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une division qui est extrêmement difficile. Là. C'est une division qui est très top-heavy, mais après ça, ça peut quand même s'interchanger. Donc, non, si les Kings évitent les blessures, si... Cam Talbot fait le travail, c'est un poste dans le top 3 pratiquement assuré.
Écoute, c'est quand même fou quand tu regardes ça. Hein? Cam Talbot, 1 million par année, un guess, 36 ans. Phoenix Copley, 1,5. 2,5 millions pour tes deux goalers dans une année qui vont se finir un contrat là. Donc honnêtement, si on a la chance du côté des Kings d'être loin dans le classement, proche de la tête dans le classement à la date d'échange, des limites d'échange, à la date de limite d'échange, tabarouette, ça dure à dire ça. Donc, moi, je pense qu'on va être actif du côté des Kings, malgré qu'on n'a quand même pas beaucoup de place dans notre masse salariale avec 111 000 $, mais je pense que d'avoir un gardien de but emprunté en fin de saison, peut-être pour apporter un petit peu plus de stabilité dans la stabilité, ça va aider. Mais je serais vraiment surpris de voir l'agressivité qu'on va avoir là.
Ça nous laisse maintenant dans le top 2, donc Vegas et Edmonton. Je vais aller en premier pour le numéro 2. J'ai mis les Golden Knights.
Ouais, on s'assinera pas.
Donc, on a le même top 3. Du côté de Vegas, j'aime beaucoup qu'on a réussi à garder les services de Ivan Barbashev. Il a tellement été important en série, ce joueur-là, puis on a réussi à le ramener là, pour cette année. Je regarde offensivement, par contre, pas un gros fan de leur profondeur. Tu sais, on a une grosse première ligne avec Barbashev, Eichel, Marchessault. Ensuite, on a Stevenson, Mark Stone, mais Paul Cotter, c'est la deuxième. Ensuite, on a William. Je pense j'aime beaucoup la ligne de centre. C'est peut-être les ailes que j'aime un peu moins.
Ouais.
Défensivement, bon, on a toujours le top 4 assez fiable là, de Hag, Pietrangelo, Théodore et McNabb. Et devant le filet, bien, on a encore le duo de Thompson et Adam Hill. Donc, on est quand même assez solide à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on n'a peut-être pas la force de frappe offensivement que les Oilers ont. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai placé deuxième, mais tu sais, je pense que ça va être une très bonne saison aussi là, pour les Golden Knights.
Écoute, moi j'ai regardé le match hier avant de m'endormir sur mon divan à la fin de la deuxième. Et honnêtement, cette équipe-là me surprend. Puis je pense que la face cachée de cette équipe-là, c'est Chandler Stephenson à seulement 2,7 millions, je pense, ou 2,75 millions. Donc oui, c'est pas une grosse profondeur offensive. C'est sûr que le punch offensif est pas mal moins gros que les Oilers, on va en parler après. Mais je pense qu'on a une équipe qui est faite tellement bien bâtie du côté de Vegas, puis on n'a pas... Oui, Adam Hill a peut-être volé les sirènes et passé au niveau des séries pour gagner la Coupe Stanley, mais ils ont rien perdu. Je pense que cette équipe-là est en mission. Marchessault, sa dernière saison. Est-ce que ça sera un autre contrat de 5 millions et plus pour Marchessault? J'en ai aucune idée. Mais je pense que ça va être une équipe qui va être assez redoutable à jouer. Ils sont gros, ils sont physiques, ils frappent fort. Puis quand je regardais hier le match, là, les trios ont changé. Mark Stone sera un deuxième, ça veut en dire long. Ça veut dire que l'équipe a beaucoup de profondeur, moi, je trouve, quand même. Mais j'ai hâte de voir. Est-ce que Barbashev va continuer comme il a fait dans les séries l'année passée? Il était une clé quand même l'année passée avec cette équipe-là. Est-ce que Jack Eichel va tellement s'amuser cette année que ça va être plus facile au niveau de la saison régulière? Faut pas oublier qu'il était quand même celui qui a le plus de points dans les séries l'année passée. A amené cette équipe-là à un niveau supérieur. Et tu sais, juste hier, Mark Stone, deux passes avec un dos pété. Donc, tu sais, cette équipe-là, je pense, peut surprendre, mais je pense que au niveau offensif, le punch offensif qu'ils ont, je place les Oilers en premier, mais au niveau de la stabilité, surtout devant le filet. Si Thompson peut bien faire, et moi je pense que ça va être encore une bagarre à deux. Là, on a vu que c'était Adam Hill qui était là hier, mais je pense pas que le premier poste est automatiquement Adam Hill. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté de cette organisation-là cette année.
Ce qui nous laisse maintenant le premier rang avec les Oilers d'Edmonton. Encore une fois, une grosse année à prévoir du côté des Oilers. On sait que la saison régulière, ça va fonctionner, mais encore une fois, eux, c'est les séries là, qui portent un peu plus de problèmes. Bon, on regarde l'équipe, évidemment. On a les McDavid, Draisaitl, Evander Kane, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins. Là, si je me fie à Daily Face-Off, Connor Brown sur le premier trio avec McDavid et Evander Kane, ça, j'ai des petits doutes un petit peu. Défensivement, on a encore Daniel Nurse, Evan Bouchard, Cody Ceci, Brett Kulak, Broberg et Desharnais. C'est pas une défensive à tout casser, mais c'est quand même une défensive qui est assez fiable pour réussir à aller chercher des victoires. Et devant le filet, eh bien, on a Stuart Skinner et Jack Campbell, évidemment, qui sera numéro 1, qui va avoir plus de départ, on verra bien. On sait que Skinner est capable de faire le travail, on sait que Jack Campbell est capable de tout faire foirer ça, mais on a connu un bon camp d'entraînement avec les Oilers, donc il y a peut-être un petit peu d'espoir là, du côté des Oilers. Sinon, ben, on a Skinner comme un bon plan B. Il ne faut pas oublier aussi que, là, je n'ai pas nommé dans la défensive, mais Mathias Ekholm qui est blessé présentement, et ouais. Ryan McLeod. Ouais. Ekholm, là, c'est un défenseur qui va jouer top 4 aussi, là, donc c'est pas à négliger non plus. Donc, grosse année à prévoir du côté des Oilers, mais comme j'ai mentionné la question, est-ce qu'en série, on réussira enfin à faire le travail? Je sais que plusieurs experts qui se sont prononcés qui voient les Oilers gagner la Coupe. J'ai hâte de voir ça. Mais je trouve certaine offensivement à l'attaque durant la saison, ça va être le fun à voir.
Ce que j'aime de cette année des Oilers, c'est l'expérience qu'on a gagnée. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais ça fait 8 ans qu'on a David est là, oui, je sais. Mais je parle d'expérience, je parle de désir de gagner. Puis moi, je pense qu'on n'avait pas ce désir-là avant les autres années, sauf pour Draisaitl puis McDavid. Je pense que les avenues d'Evan Bouchard, Mathias Ekholm l'année passée, Daniel Nurse doit en faire beaucoup mieux. Un salaire 9,25 millions, c'est honnêtement le pire contrat de l'histoire présentement de la Ligue nationale parce qu'il est vraiment pas bon. Mais je pense que s'il y a un gars qui peut step up sa game, aider défensivement, tout à fait d'aider offensivement sans perdre la tête, c'est lui de le faire. Et à 28 ans, un contrat jusqu'en 2030, c'est à lui de mettre les bas de travail, travailler cette année du côté des Oilers. Et on sait que McDavid devra faire un 130-140 points. L'année passée, tu sais, on avait prédit quoi? 150 points, t'avais ri de moi, t'avais dit 120, c'était assez. Finalement, il a fait 156. Puis tu sais, on l'a lancé comme ça l'année passée, puis je me lance pas de fleurs. On le sait que ça peut arriver. Il manque quoi, là? 153 points pour faire 1000 points en carrière déjà à sa 8e saison. C'est incroyable ce qu'on voit présentement du côté de McDavid, mais il ne doit pas tirer la charrette tout seul. Donc, Zach Hyman devra faire mieux. Evander Kane devra faire mieux. Ryan Leonard devra faire mieux. Fuego devra faire mieux. Et je pense que c'est en communauté. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Cavaliers de Washington, quand on est en quoi, en 2017, je pense qu'ils ont gagné, ou en 2016, je ne me souviens pas. Ça avait été un petit peu plus, je vais dire, difficile offensivement du côté de Ovechkin. Il avait quand même marqué quoi, 63 buts, mais je parle... On a joué plus en comité, puis je pense que c'est ce qu'on est rendu du côté. Alors, si on veut gagner, on doit être meilleur défensivement, mais il ne faut pas juste penser à la défensive. Il ne faut pas faire le Gilbert Delhomme de nos mondes, là, puis de juste penser qu'il faut être bon défensivement à jouer national. Je pense qu'il y a du talent offensif de plus en plus. Il ne faut pas demander à Connor McDavid d'être le nouveau Patrice Bergeron, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce qu'on peut demander à Connor McDavid, c'est de faire attention pour ne pas perdre les rondelles en bataille. Puis ça, c'est une affaire qui peut avantager cette année les Oilers. Au niveau des gardiens de but, c'est la seule bémol qu'on a. Mais je ne peux pas croire que Jack Campbell et Stuart Skinner ne peuvent pas gagner 70% des rencontres cette année. Cette division-là n'est pas la plus forte. On a trois équipes faibles dans cette division-là. Puis en même temps, les Oilers, on les voit à quoi? Là, 100 points, je pense. C'est 110 points, 112 points, les espoirs vont donner. Donc, c'est quasiment 60 victoires. C'est beaucoup. C'est là où c'est rien, parce qu'on a des contrôles qui se finissent. On a Fuego qui finit cette année, Ian Marks finit cette année, Holloway finit cette année, Connor Brown finit cette année. Pour le reste, tout est pacté pour les prochaines années. Donc, c'est l'heure. Et moi, je pense que si à la période de transaction, on n'est pas satisfait du rendement de ce côté des Oilers, ça va bouger. Je vous le dis tout de suite, ça va bouger.
Donc, Steph, on a officiellement fini notre classement de prédiction. Mais là, il nous reste une prédiction.
Ouais.
Finale de la Coupe et le gagnant. Est-ce que je vais en premier? Je te laisse y aller. Je vais y aller en premier. Moi, je pense que dans l'Ouest, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, peut-être pas. Mais j'aime beaucoup les Stars. J'aime beaucoup comment cette équipe-là est bâtie, comment elle progresse aussi au niveau des jeunes avec Robertson qui prend de plus en plus de galons. Là, on a des Wyatt Johnson aussi qui se sont invités dans la danse. Donc, moi, dans l'Ouest, j'ai les Stars en finale, mais c'est dans l'Est que j'hésite beaucoup. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont mis les Hurricanes de la Caroline.
Yeah.
Ce n'est pas un mauvais choix.
Yeah.
Mais je veux pas les mettre parce que ça me tente pas d'être trop mainstream. Les Devils, c'est peut-être un petit peu trop tôt encore. Les Leafs, je le sais pas.
Tu as nommé les trois meilleures équipes, tu vas choisir qui, les Flyers?
Non, mais dans le Canadien.
Sacrement.
Je sais pas. Pour vrai, l'Est m'embête beaucoup. Autant que dans l'Ouest, là, quand j'ai pensé, pouf, les Stars m'ont pas peu dans la tête, mais dans l'Est, je serais pas capable d'identifier une équipe. Mais parce qu'ils sont dus, je vois avec les Hurricanes contre les Stars en finale.
Non. Bon. Vas-y. Pick. Bon pick pour vrai, puis j'aurais pu prendre ça. Moi aussi, là, je dis non, mais j'aurais pu prendre ça 100 000 à l'heure. J'aime beaucoup comment les Stars sont bâtis dans l'Ouest. Je souhaite quand même une Coupe Stanley aux Oilers avant. Moi, je pense que les Knights, ça a été... pas de la chance l'année passée, mais je pense que ça a été bien mérité, mais on a passé quand même dans des choses qui étaient plus simples dans l'Ouest. J'aime vraiment beaucoup les Stars, moi, avec, mais je vais aller pour les Oilers. Pour la seule et bonne raison, j'aimerais ça qu'une équipe canadienne ferme la gueule à Gary Bettman. Puis je pense que c'est la seule équipe qui peut le faire présentement. Et sais-tu quoi? Moi, je vais y aller en grand et je vais y aller fort cette année.
Edmonton contre Toronto.
Et voilà. Ça serait Edmonton contre Toronto. Puis là, je vous le dis, je ne suis pas un favori de la foule. Mon équipe, c'est les Red Wings, vous le savez. Ça ne me dérange pas n'importe quelle, de parler n'importe quelle équipe. Je n'ai pas de favoritisme. Mais j'aimerais vraiment ça pour le Canada, pour la Ligue nationale, puis d'avoir deux grosses équipes canadiennes en finale. Je pense que les Leafs peuvent se rendre. Est-ce qu'ils ont la brigade défensive et le goaler pour se rendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va focusser sur juste l'attaque? On a parlé dans nos prédictions. Mais j'aimerais vraiment ça voir. Dans mon coup de cœur, ce serait les Leafs contre les Oilers. Sinon, si ce n'est pas les Leafs, moi, ça va être les Devils. Moi, je pense que les Devils, on est rendu. On va surprendre plus qu'un cette année. Je pense que les Hurricanes, il manque encore de grit. Il manque ce qu'il faut en série. C'est du papier semblé, puis on ne l'a pas encore du côté des Hurricanes.
Donc, voilà, les prédictions sont lancées. Donc, dans plusieurs mois, on retournera et on se dira à quel point on s'est planté encore une fois.
Quelle épée!
Comme c'est le cas à chaque année. Donc, on va terminer le podcast avec quelques nouvelles, quelques nouvelles finalement. Écoute, ça s'est produit ce soir déjà le premier but de Connor Bedard. Steph, on n'aura pas fallu attendre longtemps. Donc, les Hawks qui jouent présentement contre les Bruins. Connor Bedard qui fait un tourniquet, a tourné, contourné le filet pour battre de vitesse le gardien des Bruins pour marquer son premier. Il avait récolté également une passe hier dans le match contre les Pingouins de Pittsburgh. Donc, déjà 2 points en 2 matchs pour Connor Bedard. Donc, il est sur un pace d'un point par match. C'est un peu ce qu'on avait dit. Moi, j'avais dit plus 70, 75 gros top. Tout avait été un petit peu plus haut, me semble. Mais présentement, là, il est très bien parti, notre cher ami Connor. Nouvelle moins le fun un petit peu. Ouais. La LNH qui ne veut plus rien savoir du ruban arc-en-ciel durant les warm-up là, pour évidemment, encore une fois, là, la fameuse communauté LGBTQ. Bon, là, je sais qu'on a. Là, dernièrement, ils avaient mentionné là, que les thématiques chandail, on allait tasser ça de côté parce que ça faisait trop polémique et tout ça. Là, on en rajoute une couche avec le fameux dossier des rubans. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Est-ce que la Ligue. Parce que clairement, la Ligue veut essayer d'éviter le plus possible que les joueurs soient mis sous le spot. Si on se rappelle, là, entre autres, c'était le défenseur Provorov, là, entre autres, avec les Flyers autrefois.
Les frères Stars.
Les frères Stars aussi. Que bon, là, il y avait aussi James Ryan Merck également avec les Sharks, là, que ça avait également brassé un petit peu. Et je pense que la LNH veut tenter d'éviter justement que les projecteurs soient sur ces joueurs-là, mais je pense qu'elle s'y prend de la très mauvaise façon, malheureusement. Et là, la Ligue fait juste passer pour une gang d'arriérés qui vivent encore dans les années 1950. Là. C'est l'image qu'elle projette, je trouve.
Oh, c'est un combat éternel, cette chose-là. Écoute, moi, je pense que la politique ne va pas dans le sport. Malheureusement, on demande aux athlètes de ne pas parler politiquement des choses. On leur demande d'être parfaits, des êtres humains sans reproche. Parce que dès que tu as un reproche, tu te mets sur la place publique, tu te fais foutre dehors ton équipe, tu crisses la poubelle après. Donc, mon commentaire premier là-dessus est « L'inclusion ne me dérange pas et ne me dérangera jamais. » Faites ce que vous voulez chez vous, dans votre lit, dans votre environnement de travail ou dans la société de nos jours, ça ne me dérange pas non plus. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir de la politique dans le sport? Moi, c'est non. Mais en même temps, si ça a été voté par l'association des joueurs, pas de problème avec ça. Je suis un grand fervent de football, ceux qui savent, dans la NFL, et à chaque mois, il y a le... À chaque game, ils ont des sujets différents, ils ont des affaires différentes. On est très arriéré au niveau du hockey, on aime ça, le fameux dinosaure. Mais en même temps, on devrait jamais... Moi, je pense qu'on devrait jamais forcer un joueur à faire ce qu'il ne veut pas faire. J'aimerais pas me faire forcer de faire quelque chose, donc je ne vois pas pourquoi on serait obligé de le faire pour les athlètes sportifs du hockey. Donc moi, c'est plus dans ce côté-là. De le bannir, ça me dérange, parce que, tu sais, on en parlait, Connor McDavid en a parlé la semaine passée, que lui, il arborerait probablement cette tape-là, parce qu'il veut encourager. On a vu aussi l'ancien directeur général, Brian Burks, parler qu'on était... que lui a fait beaucoup pour cette communauté-là, et c'est bien correct. Félicitations à ces personnes-là, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est en deux temps, c'est un débat en deux temps, il n'y a pas de bonne réponse à ce maudit débat-là, c'est ça le problème, c'est que si on inclut puis on le fait, ça va chialer, puis si on le fait pas, ça va chialer. Donc moi je pense que la décision d'enrayer ça et de le punir n'est pas la bonne solution, mais en même temps de ne pas l'inciter aux joueurs de le faire s'ils ne veulent pas le faire, c'est aussi une bonne décision.
Ben écoute, on avait déjà parlé dans ce dossier-là que c'était justement l'affaire avec les chandails. Moi, je pense que la LNH s'y prend mal pour promouvoir ça. Je pense que je suis d'accord qu'il ne faut pas que ce soit les joueurs qui fassent comme un marketing là-dessus, dans le sens que justement, là, si admettons, il y en a un qui ne veut pas le faire, ben là, c'est le joueur qui mange toute la boîte. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens qu'on peut réussir à le faire. Puis tu sais, on a parlé de faire soit des pubs, des trucs comme ça avec les bandes. Il faut bien que ça serve à quoi, c'est les affaires digitales, à part flip, faut t'entendre mal fait. Mais si on peut se servir de ça, si on peut se servir des. Je ne sais pas qu'on fasse une cérémonie d'avant-match ou peu importe. Tu sais, je pense qu'il y a plein de façons qu'on peut célébrer ça. Puis, tu sais, je marche un peu sur des œufs, mais je suis un peu d'accord avec toi que il ne faut pas que ce soit les joueurs qui soient je ne dirais pas les cobayes, mais qui soient un peu les joueurs qui sont. Je ne sais pas un placement de projet. Je ne sais pas quel terme utiliser, non. Mais tu sais, que ce soit sur eux. Tu sais, je comprends que oui, il faut que les joueurs, mettons, qui veulent endosser ça, tu sais, ils ont le droit, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est ça. Ça, mettons, tu dis que, bon, ben les joueurs qui veulent faire le truc du tape, ben faites-le, sinon les autres, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses que les partisans vont voir? Ils vont regarder Ovechkin patiner sur la glace. Ah, il a pas son tape de couleur. Fait que là, il va tout manger à merde. Tu sais, je veux dire, et là, mon problème, c'est que Après ça, ces joueurs-là, puis tu sais, je ne suis pas en train de défendre ces joueurs-là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'après ça, on garoche tout le hate sur ces joueurs-là. Puis après ça, on parle d'inclusion. Tu sais, je veux dire, c'est deux pas, deux mesures. Je veux dire, le gars a peut-être des convictions. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ses convictions-là, c'est vrai. Mais si lui, c'est ça, ses convictions, ben, just too bad. Je veux dire, c'est tu vas pas changer le gars, là. Tu vas pas changer la mentalité d'un gars de 34 ans, là. Tu sais, c'est ça le problème. Fait que c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut y aller avec des solutions qui n'impliquent pas nécessairement les joueurs, mais plus l'équipe globalement. Que ce soit, tu peux remettre des chandails aux partisans dans les estrades qui peuvent porter ces chandails-là. Tu peux mettre des publicités ou des annonces, whatever, sur les bandes digitales. Tu peux mettre, je sais pas, moi, peinture les poteaux aux couleurs des poteaux des buts aux couleurs d'arc-en-ciel. Tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs que tu peux faire qui n'impliquent pas les joueurs directement, qui vont éviter ce que la LNH ne veut pas qu'il arrive, sans nécessairement dire qu'on va bannir ça parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec ça. Moi, je pense que c'est. Il aurait pu gérer ça autrement, ce problème-là.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Donc, voilà pour ce fameux débat de la soirée. Sinon, écoute, on parlait un petit peu du Canadien parce qu'il y a eu des décisions, je dirais pas audacieuses, mais Ken Hughes, qui n'a pas froid aux yeux, décide d'envoyer Yoel Armia à Laval, un vétéran que ça fait 5 saisons qu'il est avec le Canadien, qu'on pensait que son poste était acquis à chaque année. Et là, Ken Hughes a fait « Non, là, ça fonctionne plus. On l'envoie à Laval. »
Bravo. Ça, bravo. Ça, bravo. Tu ne fais pas le travail, va-t'en en bas, d'acide dans la sol, bravo. Et s'il fait comme le dernier qu'on a fait ça, je ne me souviens pas son nom de défenseur, je ne me souviens pas
le
son
prolifique
nom.
Carl Osner.
Carl Osner, moi je l'avais rencontré à mon magasin de Laval. Super gars, super gentil, très gêné. Mais Anthony Marcotte a écrit un beau billet cette semaine disant que Carl Osner avait. Littéralement, oh boy, ça se pogne, mon chum. Bertuzzi a une poignée à la marde là. Malade. Excusez. Donc, donnait des cadeaux, payait les choses aux jeunes, a montré être un vrai pro, puis je pense que c'est là qu'on devrait faire. Je trouve ça dommage pour. Je trouve ça vraiment dommage pour lui, mais en même temps, est-ce qu'on voyait vraiment une place pour lui dans l'alignement du Canadien de Montréal? Et là, je pense que c'est non la réponse. Donc, à place de faire des accroirs, à place de ne pas mettre un jeune ou un joueur qu'on veut, on voit notre futur dans la Ligue nationale avec nous, dans une chaise, on a préféré mieux envoyer Yoel Armia. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il est sur le trade block, ça fait longtemps qu'il y a plusieurs affaires qui se passent au niveau de lui. Et là, je pense qu'on a enfin fait ce qu'on avait à faire. Et bravo, il reste juste à voir si t'es un professionnel en bas puis d'aider les jeunes dans la filière en bas. Puis qui dit, tu sais, probablement ça va être ton premier joueur, tu vas remonter si t'as une blessure. Donc, je sais pas comment on fonctionne du tout de Ken Hughes, mais bravo pour l'audacité, puis bravo pour les choses à faire. Moi, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire du côté du Canadien, puis bravo.
Et semble-t-il que selon ce qu'on rapporte, là, les personnes là, qui couvrent le Rocket de Laval, ça a l'air que Yoel Armia est A1 présentement. Là, je veux dire, il va pas là en bougonnant. Il était à l'entraînement ce matin, puis il avait le sourire. Il a business as usual. Donc, s'il peut garder cette attitude-là, tant mieux. Puis comme tu dis, ça peut également aider les jeunes. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que dans une équipe où on veut prôner le développement, est-ce qu'on préfère avoir un Ilonen qui peut s'améliorer et devenir meilleur ou un Armia qui a pas mal atteint son pic, puis que même son pic est passé peut-être là, un an ou deux, puis en plus que Ilonen coûte moins cher, la question est assez facile à y répondre là, présentement. Sinon, Ken Hughes qui était en entrevue aussi avec, je pense que c'est Marc-Antoine Godin de Radio-Canada qui a fait un article qui parlait un peu de la mentalité du Canadien actuellement. Puis, tu sais, il a parlé aussi des joueurs autonomes et tout ça. Puis, j'ai beaucoup aimé sa réponse quand il a dit « Écoute, présentement, nous, ça ne donne rien de signer des joueurs autonomes parce que souvent, les joueurs autonomes, leurs meilleures années, c'est dès maintenant. Souvent, on va vraiment se tirer dans le pied à long terme parce que c'est des joueurs qui ont 27, 28, 29 ans. Fait que c'est là qu'ils performent, mais dans 3-4 ans, leur performance commence à diminuer. Et nous, quand on va être prêt à être une équipe aspirante, ben, ces joueurs-là vont en passer leur prime. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant de voir la mentalité que Ken Hughes ne va pas accélérer les choses en essayant d'aller chercher des joueurs autonomes. Il veut vraiment se fier à la progression de ses jeunes. Puis quand il va sentir que son... Puis aussi, il a vraiment parlé ouvertement... Pas parlé ouvertement de transactions, mais il a dit, gars, on a des choix de première ronde, deuxième ronde, puis troisième ronde à pelleter. C'est sûr qu'à un moment donné, on va peut-être surpayer pour un joueur quand on va être rendu à ce stade-là. Et là, présentement, le Canadien n'est pas vraiment à ce stade-là. Mais tu sais, je regardais les choix que le Canadien a. Est-ce qu'une offre hostile pourrait être une avenue? et qu'elle va être mieux bâtie que celle de Bergevin avec Sébastien Aho. On sait que Kenyo, c'est un ancien agent. C'est pas mal plus comment ça fonctionne, ce côté-là. Peut-être que non plus, peut-être qu'on va plus y aller avec une transaction aussi. Mais le point, c'est que Ken Hughes ne semble vraiment pas vouloir déroger de son plan, que les jeunes vont se développer quand ça va être le temps d'agir puis d'appuyer sur la gâchette. Ça ne va pas nous déranger de overpayer pour un joueur s'il peut nous aider dès maintenant, puis c'est un joueur d'élite. Parce qu'il a reconnu aussi que ce qui manque présentement à son équipe, c'est peut-être du talent brut au niveau élite plutôt à l'attaque.
C'est plate parce qu'il a passé à côté de Michkov,
mais ça, c'est un autre dossier.
Michkov aussi a passé à côté de lui-même. Parfait.
Il a passé à côté de lui-même.
On n'entend même pas parler.
Hein. Arrête, depuis qu'il est avec Sochi, il n'est quasiment pas par game, c'est pas plus. Mais bref. Je trouve ça juste ironique qu'il dise ça quand il va aller repêcher un défenseur cinquième. Mais bon, ça, on va...
Juste parce que c'est pas ton pick, babe.
Non, mais j'aurais pris Zach Benson aussi, ça me dérange pas.
Si c'est un top 2, si dans 3 ans, tout le monde va dire « Bravo, ben, bravo Ken Hughes, tu vas être encore là, on aurait dû prendre Michkov. »
Non, j'ai dit que j'allais laisser la chance au coureur. Je dis juste que, tu sais, 2024, là, c'est vraiment un très bon repêchage pour les défenseurs, justement. Donc, ça aurait été quoi d'attendre un an de plus pour aller chercher ton défenseur?
On va prendre un meilleur attaquant. On est de même à Montréal, on est des Québécois, on est différents. Continuons à être différents.
Le meilleur attaquant cette année va avoir été repêché 15e l'année passée. Tu sais, c'est... En tout cas, on va qu'est-ce que ça va, comment ça va donner. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait du bien d'entendre un DG qui ne semble pas avoir le bouton panique collé sur le doigt en ce moment, puis qui veut essayer de tout patcher, un peu comme Bergevin a essayé de faire, puis qu'il va prendre son temps, puis quand ça va être le temps, il va appuyer sur la gâchette. Puis on l'a vu qu'il s'est pas gêné. Il l'a fait avec Kovalov pour Kirby Dach. Il va conclure les transactions avec New York. Je ne suis pas inquiet pour ça. Là. Puis il a fait encore cet été avec New York, qui a d'ailleurs marqué son premier de la saison avec le Canadien ce soir.
Ouais, puis écoute, s'il y a des assets, ça va être assez simple. Là. Puis honnêtement, bravo. Puis ce que j'aime, moi, c'est qu'on ne déroge pas, mais qu'on a un plan, bordel. Et là, c'est maintenant 4-3 pour le Canadien en passant. New York, son deuxième.
C'est qui a scoré troisième?
NHL.com, c'est M. Cole Caulfield en avantage numérique. Sur un lancé papillon qui a dévié sur 7 personnes. mais c'est quand même un but pareil. Et là, mon NHL.com vient de crasher. Il y a trop de monde au Québec qui la regarde présentement.
Mais là, tu dis le pointage. Moi, je suis allé voir parce que moi, j'ai pas accès à la game, malheureusement, pendant que je fais le podcast. Moi, c'est ça qui manque un petit setup avec une TV et puis les games. Là, mais...
ouais, Kirby Dach a fait une belle passe à Jack Eye et lancé. New York a fait dévier. Merci, bonsoir. Et voilà. Jack Eye, après avoir eu les grosses balles de mettre Reeves sur le cul du filet tantôt en première période.
Oui, parce qu'évidemment, on n'a pas eu à attendre longtemps. On se demandait quand est-ce que Jack Eye et Reeves allaient se pogner. Bien, ça s'est fait dès ce soir, en première période. Je dirais pas vraiment que c'était un combat. Je veux dire, on s'est tiraillé un peu. Jack Eye a eu le takedown à la fin, mais mettons que c'est servi un petit peu du filet pour réussir à le pousser à terre.
Georges Larac l'avait prédit. J'ai l'impression que Georges Larac, quand c'est plus qu'on pense à Arber Jack Eye, on sait qu'il s'est entraîné avec Pezzetta une couple de fois cet été pour montrer comment se batailler à Pezzetta, mais je suis pas mal sûr qu'on a fait une couple de séances privées avec notre cher Arber et Monsieur Larac. Donc, il veut pas le dire, mais moi, je pense que c'est ça pareil. Donc, j'ai hâte de voir ça, hein. On a hâte de voir ça. C'est une division qui va être tough cette année dans la division du Canadien au niveau de la robustesse puis au niveau des gros bonhommes. Mais j'ai hâte de voir ça. New York, deuxième but ce soir en avantage numérique. Puis, on n'en parle pas, mais deux buts en avantage numérique ce soir. L'effet Alex Burrows se fait enfin sentir après trois saisons.
Mais par contre, j'ai été surpris, par exemple. Je ne sais plus chez où que Saint-Louis a mentionné ça, mais ça a l'air que l'année passée, ils ont travaillé sweet fuck out sur l'avantage numérique.
Zéro.
C'est dit, on va commencer par travailler les bases à 5 contre 5. Et là, cette année, on va garder plus les unités spéciales. Mais je crois même, ben, tu sais, je veux dire, ils ont travaillé un peu l'avantage numérique. Je veux dire, ils ont fait des répétitions un peu, mais ils n'ont pas vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus sur les stratégies. Et ça explique pourquoi peut-être l'avantage numérique du Canadien était pitoyable l'année passée. Et là, cette année, on travaille un petit peu plus dessus. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais si on a déjà deux buts ce soir, c'est déjà un bon départ là, pour le CH. Mais New York va peut-être en faire taire une couple de personnes dont moi, je n'étais pas tant convaincu de la transaction en partant. Mais écoute, deux buts ce soir, on ne peut pas dire grand-chose jusqu'à maintenant de New York.
Après ma débandade avec Krejci l'année passée, ça va te faire taire avec New York cette année.
Ah, mais là, cette année, tu n'auras pas besoin de te fier à Krejci, il n'est pas là. Cette année.
Oh, dommage.
Écoute, Steph, t'avais-tu d'autres sujets que tu voulais glisser là, tranquillement, mais sûrement?
Ah, tout à part la super publicité de Pepsi avec Savard et
Suzuki. Je n'ai pas encore écouté celle-là. Faut que j'aille,
tellement bien français, là. Pour vrai, là, je pense que mon chum dans le quartier, dans l'ouest de l'île, parle moins bien français que lui.
T'es donc, sûr que c'est pas quelqu'un qui a fait un voice-over?
Non, non, non. Donc, j'espère juste que les médias ne seront pas trop fatigants et qu'il peut continuer à faire ce qu'il a à faire comme progression.
By the way, Suzuki m'a charmé parce que voici ce que je bois en ce moment.
Un Sugar Zero.
Voilà. Ben écoute, Steph, ça va être un petit peu plus court ce soir, mais là, la semaine prochaine, on start ça. Je ne dirais pas pour de vrai, parce qu'on a starté évidemment là, un
c'est
mois.
C'est chiant, là. Ça fait cinq semaines qu'on fait ça.
Ce que je voulais dire, c'est que là, on reprend la formule habituelle avec nos beaux petits segments, le fun. Ton what the fuck, ton que c'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des trucs là, à Steph. J'en veux. Donc, il en prend n'importe quand. Sinon, la semaine prochaine, je vais... Je promets rien, mais je vais essayer d'avoir quelqu'un pour nous parler un peu de la... Parce que les Rockets de Laval commencent leur saison en fin de semaine. Ouais. On peut avoir quelqu'un là, pour nous parler un peu de ça. Quelqu'un qui couvre les activités du Rocket. Je vais travailler là-dessus cette semaine. Sinon, portez-vous bien cette semaine. Puis bonne saison de hockey 2023-2024 officiellement. En espérant qu'on va avoir du très beau hockey à se mettre sous la dent. J'en suis convaincu. Et on se retrouve dimanche prochain, mon cher Steph.
Salut tout le monde. Bonne semaine. Amusez-vous bien.
Ciao, bye. Yeah, I believe so.